Chapitre 8. Au temps où Charles Digoin avait habité chez Madame Prince, il avait été question autour de lui d'une certaine pension de la rue des Marronniers à Passy. S'il s'en souvenait encore aujourd'hui, c'était qu'à l'époque on en avait parlé comme d'une maison assez libre. Un scandale y avait, paraît-il, eu lieu. Une jeune fille d'une de ces excellentes familles où Madame Prince avait été gouvernante y aurait été séquestrée par un vieil acteur très connu. L'affaire avait été étouffée, mais Madame Prince, par ses relations personnelles, avait su toute la vérité. Digoin se souvenait même qu'elle avait pris la défense de l'acteur, victime, selon elle, de la coquetterie de la jeune fille. Sur le trottoir qui fait le tour de la gare de Lyon, devant Paris, qui lui offrait ses milliers d'hôtels, Charles ne trouva rien de mieux pour se déterminer qu'à exhumer ce souvenir d'un événement vieux de 20 ans, lequel n'avait peut-être même jamais existé. Il prit un taxi, se fit conduire rue des Marronniers. Il était 5 heures du soir et la nuit tombait déjà. Il faisait moins froid qu'à Drugny. Les lumières de la rue brillaient comme dans un instant elles ne brilleraient plus. Elles étaient encore en avance sur les étoiles et elles semblaient avoir le désir des usurpateurs de gagner très vite la partie, car bientôt elles seraient les plus faibles. Le taxi prit les quais, longea le Louvre. Charles revoyait d'abord le Paris où il n'avait jamais fait que passer. La silencieuse et monumentale gare d'Orsay, qui se dressait de l'autre côté de la Seine, l'interminable mur des Tuileries, lui faisait entrevoir une vie prête à continuer sans lui. Chaque pont était à sa place, comme il le serait plus tard, lorsque Charles Digoin reposerait dans il ne savait quel cimetière. Il dut parcourir la rue des Marronniers dans toute sa longueur avant de trouver la pension où rien ne l'appelait et pour laquelle, cependant, il avait traversé tout Paris. C'était une maison de 2 étages, à la porte de laquelle se lisaient en lettres dorées, sous une petite plaque de verre noir, les 3 mots « pension de famille », 3 mots dont celui du milieu avait quelque chose de la particule nobiliaire. C'était discret et de bon goût. On devinait qu'il s'agissait d'une maison ayant, comme on dit, ses clients attitrés et où il fallait donner à son désir de l'habiter une raison. Digoin hésita. Il ne pouvait tout de même pas faire allusion au scandale de jadis. Enfin, il entra. Personne ne s'avança pour le recevoir. Une femme qui avait l'air d'être la propriétaire le regarda, puis continua ses occupations. Tardive paresse, chez un homme qui venait de si loin, Charles posa ses valises près de la porte d'entrée avant de se diriger vers cette dame. Elle ne tarda pas à lui poser la question redoutée. « Comment se fait-il que vous ayez pensé à moi ?» Digoin parla d'un ami qui, il y avait des années, lui avait recommandé la pension. « Pouvez-vous me dire son nom ?»«
Je ne me le rappelle pas, il y a si longtemps. »
On le conduisit dans une petite chambre du premier étage qui donnait sur un jardinet.
« Je n'ai que celle-ci de libre pour le moment, mais dans quelques jours, je pourrai vous donner une grande chambre à 2 fenêtres sur rue. Je tiens à vous dire tout de suite que le prix sera le même. Toutes les chambres sont ici au même prix. Les clients s'arrangent entre eux selon leurs préférences. »
Une fois seul, Digoin éprouva le malaise que donnent les gens qui nous servent lorsqu'ils se retirent. Sa solitude était complète. Il regarda autour de lui. Les meubles étaient de bonne copie, comme on dit. Il y avait certainement des pensionnaires qui devaient en faire compliment à la patronne. Mais Digoin ne s'en rendit pas compte. Il était de ces clients qui découragent de bien faire, qui ne remarquent pas les petits raffinements, qui s'installent où on les conduit, sans admirer ni critiquer, il est vrai. Il s'arrêta devant une glace, se regarda, surpris de voir derrière lui un papier tenture étranger. L'animation du voyage était passée. Il n'était plus qu'un voyageur dans une chambre inconnue. Pourquoi avait-il quitté Drugny? Que comptait-il faire à Paris, seul, à 48 ans? Un instant, la pensée de retourner à Drugny lui vint à l'esprit. Elle lui fit éprouver un autre malaise, celui que nous donne la crainte d'arriver trop tard pour acheter ce que nous avons vendu. Qui était cet homme, portant un costume neuf, un col dur trop large, quoique de la plus petite taille, cet homme aux joues creuses,
aux cheveux restés noirs. Cet homme, visiblement, était à un tournant de sa vie. Il avait acheté une trousse de voyage. Elle était là, toute neuve, habituel témoin des changements d'existence, sur un guéridon marqueté, car chaque chambre avait son meuble marqueté. Il s'assit dans un fauteuil, gardant toujours à la main son chapeau. On ne frapperait second qu'il avait aperçu dans l'entrée qu'à 8 heures. Il avait le temps de se reposer, mais il n'était pas fatigué. Il était simplement étonné de lui-même. Qu'allait-il faire maintenant qu'il n'était plus à Drugny ? Car il n'était plus à Drugny. Pendant 15 ans, il n'était pas sorti de cette petite ville et il avait suffi qu'il prît le train pour qu'elle lui parût aussi lointaine qu'un souvenir d'enfance. Il avait réalisé une fortune suffisante pour vivre modestement de ses revenus. Comme d'autres se retirent à la campagne, il se retirait à Paris. Il trouverait une petite occupation afin que le temps ne lui semblât pas trop long. Il ne savait pas laquelle. Il verrait. Pour le moment, rien ne pressait. Il se ferait quelques relations, irait au théâtre de temps en temps, dans les musées. Il ferma les yeux. Il goûtait avec une joie profonde ce sentiment d'être à la fois seul et protégé qu'on éprouve en arrivant à Paris. Déjà, malgré la curiosité de la propriétaire, il avait senti une sorte d'acceptation de son indépendance. Déjà, des lumières brillaient dans les grands immeubles se dressant au-delà du jardinet. Elles avaient surgi inopinément. C'était la vie qu'il avait devant lui, où chacun occupe une petite place qui lui est chère, qu'il éclaire en arrivant, sans se soucier de son voisin, sans chercher à lui nuire. Les rares personnes qu'il connaissait, Juliette, la famille de celle-ci, les anciens employés de la banque, ne le rencontreraient jamais. Ils étaient comme ces gens qui, là, faisaient de la lumière. Une heure devait s'écouler encore avant le dîner. Charles Digoin quitta sa chambre, se rendit dans la rue de Passy, très populeuse à cette heure, puis commanda une consommation dans un café de la Muette. De même qu'il n'avait fait aucune toilette, qu'il n'avait pas pensé à ouvrir ses valises, de même, il ne toucha pas à cette consommation. Il ne jouissait de son changement d'existence que par l'esprit.